Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref. Autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. J'étais très excitée à l'idée de revoir tous mes amis, mes proches, et en même temps, j'en avais pas envie, enfin je sentais que c'était trop prématuré, et que j'avais d'abord besoin de digérer toute seule mon retour. J'avais beaucoup de mal à parler, j'étais comme pudique à l'idée de partager ce que j'avais vécu. Même là, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas réalisé que j'étais rentrée.
Oh là là, c'est fou.
Bonjour à tous! C'est complètement fou. J'avais l'impression que ce micro n'allait plus marcher. J'enregistre avec mon fameux micro jaune. Ça y est. Depuis la France, on est de retour. Et j'ai retrouvé mes micros jaunes parce que pendant 6 mois, j'enregistrais avec le micro qui était intégré à la caméra. J'étais partie avec le strict minimum. Et donc, mes micros jaunes étaient restés sur le bureau. Et je me suis dit, mais ils vont être tellement poussiérés qu'ils vont plus, ils vont plus marcher quand je vais les retrouver. Et il fonctionne, je tiens mon micro jaune dans ma main, c'est fou. Ça fait 2 semaines qu'on est rentré en France. Et 2 semaines, c'est même pas suffisant pour réaliser que je suis rentrée. Et donc ce récit d'aventure, le dernier, il vient conclure tout ce voyage, tout ce périple depuis les 6 mois. J'ai l'impression qu'il y a un tas de choses à vous raconter. C'est peut-être à l'image de tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment, où tout s'entrecroise, où tous les projets reprennent, et ça fait beaucoup. Donc j'ai le sentiment que j'ai beaucoup de choses à digérer, donc à vous dire. Je vais centrer cet épisode évidemment sur Shimla, sur la fin de l'aventure, et j'ai aussi sélectionné quelques questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Donc je vais prendre le temps d'y répondre en fin d'épisode. Mais sans plus tarder, je vais rentrer dans les détails de la fin de notre épopée sans avion. Donc on a réussi depuis l'Inde à rentrer sans avion, là où depuis Oman à l'aller on avait dû prendre un vol, hein, voilà, pour traverser la mer d'Arabie. Et ça avait été très dur, vous savez combien ça a été difficile pour moi d'accepter de prendre cet avion, même si j'en ai tiré de grands enseignements. Et contre toute attente avec Johan, avant de partir, on pensait que le retour allait être beaucoup plus compliqué que l'aller, et on avait émis la possibilité de prendre un avion au retour quand on préparait le projet avant de partir. Voilà, on s'était dit on aura accompli notre mission, ça arrive en Inde sans avion, on aura fait tous les tournages. Donc si vraiment on voit que niveau timing on est serré, que c'est trop compliqué, peut-être qu'on prendra un avion. Et en fait là on a été surpris par le fait qu'on ait réussi à rentrer sans avion et on avait très peu préparé finalement cet itinéraire. Donc on est juste trop heureux, c'est comme une revanche entre guillemets sur l'aller qui au final nous a un peu surpris et la vie a fait qu'on a été surpris au retour aussi, donc trop chouette. Pour les détails de la traversée jusqu'en Chine, je vous renvoie au précédent épisode, donc je crois que c'était l'épisode numéro 6, récit d'aventure. Mais donc depuis la Mongolie, je vous avais laissé jusqu'en Mongolie, et donc depuis la Mongolie maintenant, comment on a fait pour rentrer jusqu'en France? Ça peut paraître très loin, la Mongolie, et pour autant, on est rentré assez rapidement. On a rencontré 2 Mongols dès la sortie du train qui nous a amenés jusqu'à Oulan-Bator. Et ils nous ont proposé de nous avancer en voiture jusqu'en Russie, à Ulan-Ude. Donc ça, c'était encore une fois une énorme surprise du destin et des synchronicités. Comment on a fait pour croiser peut-être les 2 Mongols de tout le train qui allaient en Russie 2 jours après, précisément le jour où on avait prévu d'y aller. Donc on a fait la route avec eux et c'était trop bien, ça a été un peu long quand même. Mais les paysages étaient magnifiques et la famille était adorable parce qu'ils nous avaient préparé à manger pour le midi, mais on leur avait pas dit qu'on était végétarien. Et en Mongolie, ils mangent beaucoup beaucoup de viande, donc ils avaient vraiment fait tous les petits tupperwares, etc. Et on leur a dit, ah ben non, en fait on mange pas de viande. Mais on avait eu une cuisine la veille. Et donc, avec Yoann, on s'était préparé plein de petits repas maison végétariens. Enfin bref, parenthèse fermée. Du coup, on a voyagé avec eux jusqu'en Russie. Et depuis la Russie, on a pris un train jusqu'à Irkoutsk, là où il y a le lac Baïkal, qui est le plus grand lac d'eau douce au monde. Et petite aparté, on nous avait bien prévenu qu'en Russie, on ne pouvait pas payer par carte, suite à la situation que vous connaissez. Et donc, on avait retiré beaucoup de cash en Mongolie pour pouvoir payer en cash en Russie. Et nous, on s'était dit, l'argent mongol, on pourra le changer en argent russe arrivé sur le territoire russe. Et en fait, on s'est fait avoir parce qu'il fallait changer l'argent mongol directement en monnaie russe depuis la Mongolie. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup d'argent mongol sans pouvoir le changer. Et avec aucune monnaie russe, donc impossibilité de payer quoi que ce soit en Russie. Donc on s'est mis un petit coup de flip quand même avec Yoann. On s'est dit, mais alors là, comment ça va se passer? Parce qu'il faut quand même qu'on mange, qu'on réserve nos prochains billets, et on n'a plus rien. Et là, Yoann a eu l'idée lumineuse de contacter l'Alliance française, qui l'a mis en relation avec Romain. Donc Romain, si tu nous écoutes, merci. Et il nous a dépanné du coup, bah, tout le cash nécessaire pour toute la Russie, donc pour nos 10 jours en Russie à peu près. En soi, on n'avait pas besoin de beaucoup, beaucoup de cash, puisqu'après, on a pris le transsibérien, et ça, ces billets-là, on les avait pris en ligne. Donc voilà, et moi, après, je vais vous dire un petit peu dans quelles conditions je me suis mise tout au long du transsibérien, mais du coup, j'ai très peu dépensé. Donc, depuis Irkoutsk, on a pris le transsibérien. Il faut savoir que le transsibérien, il met au total de terminus à terminus, il met 7 jours et demi. Il part de Vladivostok et il va jusqu'à Moscou. Et sens inverse, de Moscou jusqu'à Vladivostok. Nous, on l'a pris à peu près à mi-chemin, donc à Irkoutsk. Irkoutsk, c'est hyper dur à prononcer. Irkoutsk, je crois que c'est ça. Et on a mis 3 jours et 5 heures précisément de traversée. Et moi, j'ai volontairement voulu faire une sorte de retraite méditative dans le train, donc ne pas parler, ne pas utiliser le téléphone, et jeûner pour digérer au sens propre du terme les 6 mois d'aventure qu'on venait de vivre. Et je voulais vraiment, en fait, ne pas fuir mes pensées, mais les accueillir. Et ne pas me réfugier dans diverses occupations, mais tout ressentir. Et c'était très challengeant, vous vous en doutez, puisque quand on est dans un espace clos comme un train, en fait, on ne peut pas se distraire avec de la marche, des odeurs, quoi que ce soit. En fait, on est juste dans un train. Les cabines sont quand même assez... nous, on est en deuxième classe ou troisième classe, je me souviens plus. On avait 4 couchettes dans notre cabine et ça reste assez étroit, quoi. Donc nous, on avait les couchettes du haut et à part regarder le plafond, je me suis autorisée quand même à écouter quelques podcasts, écouter de la musique, j'ai écrit et j'ai lu. Donc j'avais des occupations. Mais on se rend compte quand même que nos journées sont rythmées par les repas et que quand t'as plus ça comme cap, j'ai envie de dire, de bon là j'ai 4 heures à tuer parce que dans 4 heures je peux manger, c'est le midi, et puis j'ai re 4 heures à tuer parce qu'après c'est le dîner. En fait, on pense plus du tout nos journées de la même façon, et ça laisse beaucoup plus de place à la pensée s'exprimer. Et dans ces pensées qui s'expriment, oula, je vais partir trop loin, il y a aussi beaucoup de remises en question, beaucoup de questions existentielles qui dérangent, et que pour la plupart du temps, on passe nos vies à fuir. Parce que c'est super inconfortable d'aller creuser ces questions-là et on a très peu de temps où on s'autorise. En tout cas, c'est une question pour moi de s'autoriser à. On s'autorise très peu à aller creuser ces questions-là. Donc, dès qu'elles émergent, soit on va aller appeler une copine, on va envoyer un message, on va faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Tiens, est-ce que j'ai un message d'un tel ? On va répondre à des mails, on va manger. Qui a un gros refuge, on va aller faire du sport, coucou, ça c'est moi, on va faire un tas de choses, voilà, vous avez compris l'idée, pour au final ne pas laisser ses pensées prendre trop de place. Et là, pendant ces 3 jours et demi, je n'ai rien eu d'autre à faire que de les accueillir à bras ouverts et de dire « Ok, aussi inconfortable que vous soyez, je suis prête à vous recevoir ». Et j'ai été vraiment creuser des réflexions très très loin, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était difficile, c'était très challengeant, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et l'arrivée à Moscou, j'avais l'impression de revivre. Et le premier repas, je ne sais pas si celles et ceux qui nous écoutent là, vous avez déjà fait un jeûne, mais 3 jours, c'est vrai que ça laisse le temps de se rendre compte d'à quel point manger, c'est une chance. C'est vraiment une chance et ça a de la valeur. Et donc, je mangeais déjà beaucoup en conscience, mais là, d'autant plus, je me rends compte que vraiment, c'est quelque chose qu'on a trop tendance à prendre pour acquis. Donc mon premier repas, j'étais mais comme une enfant. Et puis, pareil, reparler, rouvrir le téléphone, répondre aux messages, etc. J'avoue qu'on retombe vite dans le bain quand même. Je m'étais dit, le téléphone, je le consulte que 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et je me dédie des temps pour répondre aux messages, le faire en conscience, etc. Mais j'ai très vite repris la mauvaise habitude de répondre aux messages un petit peu tout le temps. Je gagne aussi du temps parce que... on va plus vite quand on répond aux messages dès qu'ils arrivent. Mais à la fois, j'ai bien envie de restructurer ça parce que je sens que ça me fait du bien, en fait, de me dire que mon téléphone n'est pas toujours à portée de main. Bref, c'était une très longue parenthèse pour vous dire qu'on est arrivé à Moscou et on est arrivé le jour des élections présidentielles. Donc voilà, une bonne étoile nous a toujours suivis, mais là, fait que on y est arrivé le jour des élections présidentielles. Moi, à titre personnel, je me sentais pas du tout à l'aise à Moscou. Je trouvais qu'il y avait un climat qui était très froid. Alors oui, il faisait froid en termes de température, mais aussi d'ambiance. Il y avait peu de personnes, j'ai trouvé, pour une capitale. Après, c'était la première fois que j'allais à Moscou, donc peut-être qu'en temps normal, il y a peu de personnes. Mais ça reste quand même la capitale de la Russie, donc bon. On comprend aussi pourquoi les gens ne sortent pas dans les rues, donc j'imagine qu'il y avait moins de monde que d'habitude. Et c'était particulier puisque à la fois la vie continuait, tout le monde vivait sa vie comme si de rien n'était, à la fois on sentait qu'il y avait une pression de quelque chose qui n'était pas palpable. Et énergétiquement, je trouve que ça se ressentait beaucoup, donc je ne me sentais pas à l'aise et on n'y est pas resté longtemps. Voilà, après on a directement pris un bus de nuit pour rejoindre la Lettonie et la capitale de la Lettonie, donc Riga, est là. Frontière la plus longue de notre vie. Peut-être qu'il y en a certains qui ont suivi sur Instagram, on est resté bloqué 19 heures à la frontière lettonne. En fait, on est arrivé à 1h du matin côté russe et on a passé le côté lettonais ou letton, je sais toujours pas comment on dit, mais bref, on est rentré en Europe à 20h le lendemain. Donc pour vous dire le temps qu'on a passé à la frontière, c'était délirant. Et en fait, on n'avait aucune explication. Ils nous disaient rien. Juste que c'était long et qu'il fallait attendre. Et donc, on a pris notre mal en patience et on a attendu. Mais c'est vrai que là, c'était pousser notre patience à son maximum, comme si c'était le cadeau final de tout au long de ces 6 mois, on a fait travailler ta patience, ton lâcher prise, bah là, hop, jackpot pour la fin. Mais le fait que de ne pas avoir en fait, d'explication, ça rendait l'attente beaucoup plus inconfortable. Si, dès le début, on savait qu'on en avait... Et ça, c'est encore le cerveau humain qui a besoin de savoir les choses, c'est fou. Mais si on nous avait dit, vous en avez jusqu'à 20h le lendemain et vous attendez pour telle raison, en fait, on aurait beaucoup mieux accepté l'attente. Et au final, c'est que 18h le lendemain où on nous a dit que les Russes passaient des contrôles. En fait, on avait 6 Russes dans notre bus et ils passaient des contrôles, des interrogatoires. Et sur les 6, il n'y en a que 3 qui sont remontés dans le bus et qui ont été autorisés à rentrer en Europe. Donc voilà. Au final, on a réussi à rentrer en Europe, mais pour celles et ceux qui peut-être seraient intéressés pour faire ce trajet, petite astuce, apparemment, donc on ne l'a pas fait, mais la frontière de l'Estonie est plus facile, moins longue que la frontière lettonne. Donc nous, on pensait gagner du temps finalement en évitant de redescendre jusqu'en Lettonie depuis l'Estonie, mais de directement arriver en Lettonie. Et bon, frontière la plus longue du monde. Voilà, c'est bon à savoir. Depuis la Lettonie, on est passé à Varsovie, en Pologne, et depuis la Pologne, Berlin, et ensuite, enfin, la France. Et on est arrivé, voilà, avec une semaine d'avance sur ce qu'on avait prévu. Donc ça nous a laissé le temps de faire des surprises à nos proches qui n'étaient pas au courant qu'on allait rentrer aussi vite. Et on a laissé semer le doute sur les réseaux sociaux les derniers jours en disant qu'on était encore en Lettonie alors qu'on était déjà à Paris. Et voilà pour le trajet. Les jours qui ont suivi mon arrivée, c'était très particulier, vous vous en doutez. Donc à l'heure où j'enregistre cet épisode, ça fait exactement 15 jours que je suis rentrée et je reprends petit à petit mes marques. Mais les premiers jours ont été très déstabilisants, j'étais à la fois tellement heureuse en fait de rentrer, d'enfin poser mon sac et de me libérer de cette charge mentale à savoir où est-ce qu'on va aller demain, quel visa il faut... anticiper et quel tournage et quoi faire et quand et voilà, et là juste se dire en fait ton sac est posé, t'es dans ta chambre. Et j'avais vraiment gelé 7 jours dans mon agenda toute seule, à ne voir personne. Et pourquoi je suis restée voilà, dans la nature, dans ma chambre. Et j'étais très excitée à l'idée de revoir toutes mes tous mes amis, mes proches, et en même temps, j'en avais pas envie. Enfin, je sentais que c'était trop prématuré et que j'avais d'abord besoin de digérer toute seule mon retour. Et donc, je suis arrivée chez mon papa, j'ai posé mes affaires dans ma chambre d'enfance et littéralement, j'ai passé 7 jours seule. Et j'avais beaucoup de mal à parler, même à mon père, en fait. J'étais comme pudique à l'idée de partager ce que j'avais vécu. J'avais l'impression qu'on rentrerait dans mon intimité, en fait. Et je pense que, même là, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas réalisé que j'étais rentrée. Quelque part, je pense que c'est un peu traumatisant pour le corps de vivre en itinérance comme ça aussi longtemps. Et encore, il y en a qui le vivent beaucoup plus longtemps, mais en tout cas, d'avoir traversé autant de pays et d'avoir dû s'adapter aussi rapidement et aussi continuellement, de façon aussi intense pendant 6 mois, c'est quelque chose qu'on vit peu dans une vie. Souvent, voilà, quand on part en voyage, on peut partir bien plus longtemps, mais on reste dans un pays. Et là, on a littéralement traversé 19 pays différents. Donc, en condensé sur 6 mois, on a vécu ce que peu de gens vivent sur toute une vie. Et c'est énorme, en fait, à digérer. Vous savez à quel point, moi, émotionnellement, je suis touchée par à peu près tout. J'ai eu comme un bug du cerveau qui réalisait pas qu'il avait vécu ça. Comme si j'avais fermé la porte d'un rêve et que là, je me réveillais dans mon lit et que, hop, bah oui, j'étais en France. Et celles et ceux qui ont voyagé vont comprendre ce que je veux dire, je pense. Mais quand on revient, on sait pertinemment qu'en nous, tout a changé. Et à la fois, autour de nous, tout est pareil. Et donc, on s'en demande à se poser la question de savoir si on a vraiment vécu ce qu'on a vécu. Et c'est littéralement une vie dans une vie. Moi, les voyages, je les exprime comme ça, je les ressens comme ça, je les vis comme ça. C'est des petites parenthèses de vie dans ta vie. Et là, j'étais pas prête. On peut pas se préparer à un retour, en fait. Et réouvrir la porte de ma vie en France, ça a été d'une violence. Je me disais, mais non, en fait, je veux reprendre mon sac. Ouais, je suis morte, je suis fatiguée, mais j'ai pris l'habitude de cette itinérance. Et là, juste l'idée d'avoir ce lit tous les soirs qui est là, et de ne pas réfléchir à où aller demain, c'est un repos de dingue, et en même temps, c'est hyper déstabilisant, parce que le cerveau, il comprend plus. Et le temps de comprendre, de réemmagasiner un petit peu toutes les informations, et de petit à petit revoir les personnes qui font nos vies ici en France, ça prend vraiment du temps, et je pense que ça va prendre des mois, voire des années, voire toute ma vie, en fait, à digérer tout ce que j'ai vécu. Et les gens cherchent à savoir ce qui a été transformé en moi. Les gens cherchent à savoir, alors, c'est quoi ton coup de cœur? Alors, c'est quoi ton pays préféré? Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, quel déclic tu as eu? Et en fait, c'est... À la fois, je reçois ces questions comme des boomerangs qui m'arrivent dans la figure. Et je comprends que les gens ont envie de savoir. Et en même temps, je sais que je ne saurais pas vraiment y répondre. Que je répondrai des phrases bateau que les gens ont envie que je raconte, mais au fond de moi, je sais pas encore vraiment qu'est-ce qui s'est transformé, qu'est-ce qui a changé. Et il y a beaucoup de graines, en fait, qui ont été plantées, qui ont été semées tout au long de ce voyage, dans chacun des pays, avec chaque rencontre qu'on a faite. Et beaucoup de ces graines ne vont germer et ne vont fleurir que dans quelques années. Et petit à petit. Et donc la transformation qui s'est opérée, je pense qu'elle est lente et elle va vraiment se faire progressivement. Voilà, en tout cas, j'avais vraiment besoin de digérer moi-même avant de pouvoir exprimer mon aventure aux autres. Et ça a été, voilà, seulement après une semaine que j'ai enfin remis mon sac sur le dos, que j'ai retrouvé Biarritz, puis que j'ai été à Paris, que j'ai franchement réouvert la porte de ma vie en France et que je me suis sentie disposée à rencontrer, à retrouver. Et ça vaut pour un voyage, mais je pense pour chaque étape un peu marquante de nos vies. On a parfois tendance à très 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 vite réouvrir la porte de ce qu'on connaît. Mais prendre ce temps de pause et de digestion, à mon avis, c'est super, super, super nécessaire. Si on veut bien intégrer tout ce qui se passe, le faire de manière la plus douce possible. Et pour après être pleinement disposé à raconter, quoi. Et ne pas brûler les étapes là où on aurait envie de les brûler parce que c'est trop excitant et puis les gens attendent de nous voir et de savoir et donc on aimerait vite 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 refaire. Mais en tout cas voilà, j'ai pris ce temps de digestion qui était à mon avis très court quand même, mais qui va continuer à se tisser au fil des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Et donc me voilà bel et bien en France maintenant, disposée à raconter, à rencontrer, à retrouver ce que je connais. Et il y a un très très beau projet qui m'attend, qui arrive là, qui est tout prêt, qui est tout chaud. C'est la sortie prochaine de mon livre. Et je suis tellement, mais tellement, tellement excitée. Vous imaginez pas à quel point je suis excitée à l'idée de sortir ce livre. Il sort le 17 avril et les précommandes sont déjà ouvertes. Donc je mettrai le lien là dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez l'avoir pour sûr le jour J et dans votre librairie de quartier. Puisque toutes les librairies ne l'auront pas systématiquement en rayon. Si vous appelez votre librairie, que vous le précommandez, vous êtes sûr de l'avoir. Et ce livre, je précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le récit de mon aventure Shimla. Non. J'aurais pas pu tout écrire, tout corriger, tout envoyer à ma maison d'édition et que tout soit déjà prêt à impression alors que je suis rentrée il y a 2 semaines. Donc ce n'est pas en lien avec l'aventure Shimla. Ce livre, j'ai commencé à l'écrire il y a près de 2 ans et demi. Et c'est le livre de ma vie, quelque part. Et j'ai le sentiment que c'est le premier livre que je viens d'écrire tellement j'ai mis de moi. Et là, voilà, juste de vous en parler, ça me met les larmes aux yeux. J'ai prévu un épisode entier consacré à la présentation de ce livre pour vous parler de quoi il s'agit exactement et de tout mon processus d'écriture. Donc je garde cet épisode pour dans 2 semaines. Mais j'ouvre la boîte à questions si vous avez des questions sur mon processus d'écriture et sur l'écriture de manière générale sur ce livre. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à la fois sur Instagram, sur le site internet directement Nouvel Oeil ou par mail. Vous pouvez directement et je répondrai à ces questions dans un épisode dédié. Mais pour l'heure, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées en lien avec l'aventure Shimla. Donc j'ai sélectionné 2 questions et la première fait aussi le pont avec ce livre. La première question est: comment ne pas être éparpillé émotionnellement avec tous ces projets que tu mènes de front, les podcasts, le livre, le film et tes conférences? En effet, c'est beaucoup à gérer. Et à la fois, tous ces projets, ils ont une même colonne vertébrale qui est l'éveil des consciences, et ils sont tous interreliés. C'est-à-dire qu'à travers les podcasts et les personnes que je rencontre pour les interviewer, ça nourrit mes réflexions qui me permettent d'écrire. Cette écriture, ça me permet de tisser ma pensée, de poser mes mots pour après être plus à même de les partager en conférence. Et donc, tous ces projets sont interreliés, et ce qui me permet de les mener de front, c'est clairement l'organisation. Vous savez à quel point je suis une tarée d'organisation, mais sans ça, pour le coup, je me sentirais vraiment dépassée et je pourrais pas. Tout simplement, je pourrais pas faire tout ça sans organisation. J'aurais plus de vie et moi, personnellement, je m'y retrouverais pas. Donc, c'est la clé. Très honnêtement, je me sens pas éparpillée. J'ai eu une petite vague de stress quelques semaines avant d'arriver en France, à l'idée justement de réouvrir la porte de tous ces projets et avec quelques peurs qui ressurgissaient de « je vais pas pouvoir gérer, je serai pas à la hauteur, etc. » Mais voilà, ça c'est des peurs qui reviennent de temps en temps et qui font partie de la nature humaine et que j'accueille. Mais tous les projets que je fais m'habitent tellement et je le fais avec tellement de passion que pour moi c'est ma vie et j'y prends un tel plaisir. Là je vais reprendre les enregistrements physiques de podcast. Et ça m'a manqué. Franchement, ça m'a vraiment manqué d'aller à la rencontre de l'autre, de creuser la pensée, d'avoir une heure avec un invité, d'aller vraiment titiller cette personne, à savoir pourquoi elle pense ce qu'elle pense, comment elle en est venue à faire ce qu'elle fait. Et là, j'avais planifié toutes les interviews jusqu'à là. Et donc, ça fait plus de 6 mois que j'ai pas fait d'enregistrement. Donc, à la fois, j'ai l'impression que je vais plus savoir, de même que je pensais pas que ce micro allait encore fonctionner, j'ai l'impression que je vais plus savoir poser de questions et conduire une interview. Mais je me fais confiance, les choses vont bien se passer. Et donc, la prochaine interview sortira le 3 mai. Et à partir du 3 mai, il y aura des interviews régulières toutes les semaines. Donc, on reprend le rythme habituel d'un épisode tous les lundis. Voilà pour cette question. Deuxième question, et je vais m'arrêter là-dessus. Est-ce que ça te donne envie de repartir pour une aventure similaire? Alors oui, 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 et 1000 fois oui. Je pense que quand on vit une aventure aussi bouleversante, on a envie de repartir. Et surtout quand on réalise que c'est possible de vivre une telle aventure, ça nous donne des ailes. Et clairement, il y avait déjà peu de choses qui me retenaient avant de partir, mais là, j'ai franchement l'impression que tout est possible. Et que quel que soit le projet, aussi vertigineux soit-il, je saurai m'en donner les moyens pour le faire, pour aller au bout. Et ce projet prendra la forme qu'il prendra, avec les détours qu'il devra prendre, mais il sera réalisable. Et oui, j'ai envie de repartir, c'est évident. C'est évident. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pour quel projet, mais je repartirai. Et là, j'ai vraiment le sentiment que j'ai envie de, en tout cas ces prochaines années, de construire ma vie un peu à la Sylvain Tesson, c'est-à-dire vivre des aventures extraordinaires, les digérer, en même temps que je les digère, les raconter, donc que ce soit à travers un film, que ce soit à travers l'écriture, et après les partager. Et vraiment, en fait, découper ma vie en trois temps. Vivre, expérimenter, raconter, m'exprimer, puis partager et rencontrer. Et ça rejoint un petit peu cette idée de vivre, de digérer, puis enfin d'être disponible aux autres pour raconter. Donc voilà, après on verra de quoi la vie est faite. Il y a déjà de très belles choses qui se goupillent pour au moins une grosse prochaine année même. Ouais, non. En vrai, si je suis tout à fait honnête, au moins les deux prochaines années, le temps de faire le montage du documentaire, qui sorte, de faire sa promotion, là, de donner vie et d'assurer la promotion de mon livre, qui s'appelle d'ailleurs « Tu penses quoi de la vie, mamie ?» Je réalise que je ne vous ai pas donné son nom. De reprendre les enregistrements du podcast, les conférences, vous rencontrer. Ça va déjà bien, bien, bien m'occuper. Et puis, on verra de quoi les prochaines années seront faites. Mais voilà, je me réjouis d'être en vie. Et je me réjouis d'être de retour en France. Et je me réjouis aussi à l'idée de j'en ai déjà rencontré et croisé certains d'entre vous. Et c'est toujours drôle d'être interpellée dans la rue. Et moi, ça me fait à la fois très plaisir et à la fois ça m'intimide beaucoup parce que je réalise pas. Mais voilà, je me réjouis de vous rencontrer, de pouvoir mettre aussi des visages sur tous ces noms qui apparaissent dans les messages, les DM Instagram où au final, c'est un écran. Donc ça fait toujours plaisir de vous lire à travers un écran, mais de vous rencontrer encore plus. Et dernière information, du coup, pour celles et ceux qui sont toujours là, le 20 avril, on organise avec Fayard, ma maison d'édition, et la Fondation Gutanet, on organise une journée de lancement de mon livre qui est ouverte à tous et à toutes. Donc vous êtes les bienvenus le 20 avril à la Fondation Gutanet. Voilà, je n'avais pas prévu de donner cette info ici dans ce podcast, mais là, c'est arrivé dans le flow. Donc, je vous donne l'info. Je mettrai aussi les liens d'inscription dans la barre d'infos. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Bah, je me réjouis d'avoir vos retours sur cet épisode par message. Encore une fois, si vous avez des questions en lien avec l'écriture et mon livre, je dédie un épisode prochainement sur le sujet, donc n'hésitez pas. Et il est vendredi soir, il est 20h22, il est grand temps de couper et d'aller manger. Je vous souhaite un très beau week-end, même si vous allez écouter ça lundi. Donc très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.